en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 5 avril 2013, l'Académie des inscriptions et belles-lettres se penchait sur le sujet des papyrus d'Herculanum. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la lecture de la note d'information, c'est-à-dire la communication de Daniel Delattre, le 5 avril 2013, intitulée « Enquête sur les papyrus d'Herculanum, Paris 5 et 6 ». Il est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Retrouvons-le en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vais vous entretenir aussi rapidement que possible d'une petite enquête faite dernièrement sur les papyrus d'Herculanum de Paris 5 et 6. 6 des nombreux papyrus carbonisés retrouvés à Herculanum en 1754 et aujourd'hui conservés à l'Institut de France furent offerts en 1802 avec de nombreux autres objets archéologiques au premier consul Bonaparte par le roi de Naples, Ferdinand IV, en échange de la promesse qu'ils seraient déroulés et publiés. De ce cadeau diplomatique, datant aujourd'hui de 211 ans, témoignent deux publications dues à Aubin-Louis Milin de Grand-Maison, dont la plus complète est parue dès 1803 à Paris dans le magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts. Ces 6 rouleaux, qui appartenaient comme plusieurs centaines d'autres, ouverts et conservés à Naples, à la seule bibliothèque antique à nous être parvenue, sont enregistrés comme papyrus entier dans les inventaires de l'Officina dei Papyri sous les numéros que vous voyez sur l'écran. Arrivés à Paris dans une grande caisse de bois blanc garnie d'ouate et catalogués comme objet 59 dans la bibliothèque de l'Institut, seuls 2 volumina s'y trouvent encore, intacts, qui ont reçu en 2009 le nom de PR Paris 3, papyrus d'Herculanum de Paris 3 et 4. L'importante expérience américaine de scannage non-invasif par résonance magnétique nucléaire couplée au rayon X menée sur eux en juillet 2009 par l'équipe du Dr Brent Sims de l'Université de Lexington, n'a malheureusement pas encore permis à ce jour de faire apparaître l'encre non métallique lors de leur déroulement virtuel. 2 autres rouleaux complets de cette boîte furent emportés à Naples en 1985 dans un porte-documents par votre confrère, le professeur Robert Marichal, à la demande du professeur Marcello Gigante, qui souhaitait tester sur eux la méthode nouvellement mise au point par le professeur Knut Kleve pour décoller les spires carbonisées. Ayant reçu alors le nom de papyrus d'Herculanum de Paris 1 et 2, ils furent ouverts, avec un succès tout relatif, à l'Officina dei Papyri de la Biblioteca Nazionale en 1986-87 à l'aide de la méthode dite d'Oslo et ne revinrent à l'Institut grâce à l'entremise de M. Louis Godard, qui est à côté de moi aujourd'hui, qu'en juin 2002, cette fois-ci dans une camionnette, en 600 fragments de tailles diverses, répartis dans une quarantaine de cadres de polystyrène. Ce sont les 2 rouleaux dont le professeur Jean Leclan, au nom de l'Académie, m'avait confié en 2003 l'étude et l'édition. Il manquait donc 2 rouleaux, dont personne, même à l'Institut de France, ne savait ce qu'ils étaient devenus. On savait certes que 2 expériences d'ouverture des rouleaux de papyrus avaient eu lieu à Paris, l'une en 1816, l'autre en 1877. La première, commandée par Raoul Rochette, membre de votre noble institution, avait été menée par le chapelain du prince de Galles, le révérend John Heiter, qui avait pratiqué la machine de Piaggio durant 6 années passées à Naples. Venu à Paris avec cet instrument construit pour dérouler au mieux les cœurs de volumina carbonisés, ce dernier échoua dans sa tentative d'ouverture d'un des 6 rouleaux dont il ne resta pratiquement rien, comme le précise un rapport présenté le 31 janvier 1817, c'est-à-dire bientôt 200 ans, à l'Académie par Raoul Rochette, avant restitution à la bibliothèque des 2 rouleaux complets et 1 rouleau brisé, comme vous le lisez ici, qu'il avait emprunté pour l'occasion. Inutile de dire que Heiter fut aussitôt remercié et renvoyé sans tarder en Angleterre. La seconde expérience, dont l'initiateur est inconnu, se déroula dès le 3 février 1877 dans l'atelier des antiques du Louvre de l'autre côté de la Seine. C'est un restaurateur d'antiques, Enrico Penelli, dont le nom ici est francisé, Henri, que furent confiés, je lis le papier, deux fragments de rouleaux d'Herculanum, sans H, parce qu'il était italien, pour en faire le sujet d'expériences de déroulement. Le post-scriptum d'une lettre datée de mars 1899, adressée par le bibliothécaire en chef, Alfred Rebellio, à Marcelin Berthelot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, précise qu'il utilisa pour ce faire un petit moulin, sans aucune précision. Il est donc loisible de conclure que le premier des deux rouleaux qui manquent était le volumen détruit en 1816, le rouleau brisé dont parle le reçu de Rochette, et que les deux fragments de rouleau confiés à Penelli appartenaient au second rouleau. Mais où donc pouvait bien se trouver ce qu'il restait de ces papyrus d'Herculanum de Paris 5 et 6 ? Qui flâne sur Internet aujourd'hui est en mesure de découvrir, dans le catalogue des estampages de la bibliothèque de l'Institut, l'existence d'une boîte objet 1 contenant des restes de papyrus d'Herculanum. Trouvaille inopinée faite par mon épouse, Joëlle de Latre-Biencourt, que Mesdames Pastoureau et Kérou m'autorisèrent à examiner sur place dès le 19 juin 2012. Je fis aussitôt des photos en couleur du contenu de cette cassette de merisier que, le mercredi 20 mars dernier, le professeur Adam Bülow-Jacobsen, papyrologue danois spécialiste, entre autres, de la photographie des papyrus et ostraca, a eu la gentillesse de photographier à son tour, à ma demande pour les besoins de la présente note d'information, avec un appareil spécialement transformé pour la photo infrarouge qui est désormais indispensable pour lire les papyrus carbonisés. Sans nous attarder sur la cassette même, examinons-en de près le triple contenu. À droite, un rouleau de papyrus carbonisé qui, à l'évidence, ne représente qu'une moitié de volumen et posé sur du papier chiffonné. Semi-cylindrique, il présente une extrémité brisée qui est écrasée, comme vous le voyez. Deux plis perpendiculaires marquent sa face supérieure convexe. La seule de ses extrémités qui reste intacte ne laisse voir aucun ombilicus, ce qui signifie qu'il était roulé sur lui-même de façon serrée, comme c'est souvent le cas à Herculanum. Cette portion de rouleau encore intouchée offre deux caractéristiques particulièrement intéressantes. D'abord, sa teinte gris bistre et non pas noire, comme pour une majorité de rouleaux d'Herculanum, fait immanquablement penser à celle des rouleaux renfermant des écrits de Démétrios Lacon, comme me l'ont confirmé mes collègues napolitains au vu des photos couleurs que je leur ai présentées. Ensuite, sa partie inférieure aplatie présente une sorte de surépaisseur de papyrus, vous voyez sur la partie gauche de l'écran, dont les fibres sont disposées dans le sens perfibral, c'est-à-dire parallèle aux lignes d'écriture. Ce qui signifie que le sens des fibres à l'intérieur de cette partie initiale est perpendiculaire aux lignes de texte. Aussi serais-je tenté de voir là un exemple très rare du protocolone, du premier feuillet, qui protégeait extérieurement les rouleaux livres dans l'Antiquité. Sur la gauche de la boîte de merisier, 37 fragments de papyrus de petite dimension et collés sur du papier de soie sont empilés les uns au-dessus des autres sur la même ouate que celle de la boîte objet 59. Leur couleur est identique à celle du reste de rouleau qu'on vient de voir, donc gris bistre, partie qu'on appelle désormais papyrus d'Herculanum de Paris 5. Si l'on devine très difficilement des traces d'écriture sur ces strates de papyrus, ne s'y lit aucune lettre complète, a fortiori aucun mot, ni même aucun vestige assuré de ligne d'écriture. Toutefois, sur l'ouate qui supporte ces fragments, gît une série de minuscules morceaux de papyrus épars, de la même couleur gris bistre et dépourvus d'écriture, sauf un, celui que vous voyez sur, que vous ne voyez plus sur l'écran, que vous allez voir maintenant sur l'écran, pardon, sur lequel se lit indiscutablement, quand on a un peu l'habitude, la séquence PON, pi omicron nu, entre les vestiges illisibles de deux lignes écrites. Le papyrus d'Herculanum de Paris V était donc un livre grec, dont l'auteur pourrait bien avoir été l'épicurien du début du 1er siècle avant notre ère, Démétrios Lacon. Il est en tout cas le seul parmi les rouleaux de Paris à présenter cette couleur bien particulière, et cette écriture rappelle clairement à mon complice napolitain Gianluca Del Mastro, dont l'expertise en matière d'écriture d'Herculanum est exceptionnelle, ça lui rappelle la main qui a copié le papyrus de Démétrios consacré à la géométrie, qui est le papyrus d'Herculanum 1061. Même s'il est difficile de préciser pour ces 37 fragments, dont l'encre est presque entièrement effacée, il va rester, oui, bon, dans quel sens il convient de les orienter, l'ajout des 9,2 cm du plus grand des fragments décollés aux 11,15 cm de la partie restée intacte, donne une hauteur de rouleau d'un peu moins de 21 cm, ce qui est une moyenne tout à fait habituelle des rouleaux napolitains. Dans ces conditions, contrairement à ce que j'avais cru pouvoir avancer jusqu'ici, nous avons conservé une trace de l'essai d'ouverture de 1877. Enfin, au centre de la boîte objet 1, se cache un petit reste de rouleau, indiscutablement noir celui-ci, complètement déformé et compressé. Ce trognon de papyrus carbonisé, isolé avec le papyrus 5 des quatre autres rouleaux franchement noirs qui, eux, sont restés ensemble intacts dans la boîte objet 59 jusqu'en 1985, pourrait bien correspondre au sixième et dernier rouleau parisien et être, par déduction, ce qui a survécu à la première expérience malheureuse, celle de Heiter. À moins que ce ne soit la partie manquante du papyrus de Paris numéro 2, parce que sa longueur permettrait éventuellement d'atteindre une hauteur qui serait autour de 21 cm, auquel cas il ne subsisterait rien du rouleau ouvert en 1816. En conclusion, ajoutez au papyrus de Paris 1 et 2, que vous venez de voir à l'instant, aujourd'hui réduits à l'état d'une multitude de fragments, et aux deux rouleaux non encore déroulés, les papyrus de Paris 3 et 4, le papyrus 5 à la couleur caractéristique, excusez-moi, donc gris-bistre, et le petit reste du papyrus numéro 6 donnent finalement le nombre exact des papyri herculanenses parisinae offertes au premier consul en 1802. On s'étonnera au passage, à juste titre, de l'oubli complet dans lequel ces précieux livres antiques sont tombés à l'Institut de France entre 1899 et 1985. L'expérience désastreuse de Heiter, puis celle de Penelli, qui a réussi d'une certaine manière, puisqu'il a décollé 37 fragments, mais d'où l'écriture a complètement disparu, ces deux expériences doivent rendre très circonspect le téméraire qui serait tenté d'entreprendre à son tour de dérouler le cœur des papyrus d'Herculanum de Paris 3, 4 et 5, même en s'aidant d'une machine de Piaggio qui resterait à construire avec des matériaux modernes sur le modèle napolitain que vous voyez ici sur l'écran. La méthode d'Oslo, en effet, ne convient décidément pas pour dérouler un rouleau intact. Ayons donc la sagesse d'attendre que de nouveaux progrès en matière de technologie non-invasive permettent un jour, pas si lointain, je l'espère, de lire ces exceptionnels témoins du passé sans porter atteinte à leur intégrité, ce qui serait sans conteste l'idéal. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie. Quelqu'un demande-t-il la parole après cette note d'information ? Monsieur Joannard.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est inutile de présenter Daniel Delâtre, directeur de recherche émérite au CNRS, le grand spécialiste français des papyrus d'Herculanum, qui anime une équipe de recherche au CNRS sur le déchiffrement des papyrus carbonisés qui ont été offerts par le roi de Naples à Bonaparte, lequel les avait confiés à l'Institut. Je rappellerai simplement sa très belle et très savante communication qu'il a faite devant nous en 2004, dont nous avons conservé un très vif souvenir et que l'on peut relire dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de 2004, pages 1351-1391, dont la consultation est facilitée par la numérisation effectuée par le portail percé. Il nous exposait dans les détails non seulement l'histoire de ces papyrus, les progrès pour les dérouler, les reconstituer et les déchiffrer, mais aussi nous révélait les premiers résultats prometteurs sur l'un des deux papyrus de l'Académie qui avait été déroulé par l'équipe de Marcello Gigante à Naples et qui avait été récupéré, non sans difficulté, par notre regretté secrétaire perpétuel Jean Leclan, avec l'aide efficace de Louis Godard, auquel les hasards de la séance me permettent de renouveler notre très profonde reconnaissance. Daniel Delattre publia 3 ans plus tard, dans la collection des universités de France en 2007, une magnifique édition tant attendue du livre 4 des commentaires sur la musique de Philodème de Gadara en 2 volumes, ce philosophe épicurien, contemporain de Cicéron, qui n'était connu jusqu'au XVIIIe siècle que par des épigrammes et dont la résurrection progressive de l'œuvre philosophique est due à l'exploitation des papyrus carbonisés de la bibliothèque d'Herculana. J'ai eu l'honneur de déposer, en tant que directeur de la collection des universités de France, série grecque, cette édition qui a fait date, le 17 avril 2009, et je rappellerai simplement la phrase de conclusion. À l'heure où les techniques modernes donnent une impulsion nouvelle à la papyrologie d'Herculanum, non seulement en Italie avec le regretté Marcello Gigante et ses successeurs, mais aussi dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, la présente édition du livre 4 de la musique de Philodème dans la collection des universités de France est une pièce majeure d'un vaste puzzle permettant à la France d'être brillamment présente dans le concert international. Cette édition a reçu le prix Veil de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France et en 2009, notre cher Daniel Delattre a reçu le prix Plotel de notre académie, en réalité non seulement pour lui, mais pour l'équipe qu'il dirigeait. Dans cette note d'information, très sobre, très savante et très dense, Daniel Delattre vient de mettre en lumière, de façon très convaincante, une partie restée obscure de la saga des papyrus d'Herculanum, offert en cadeau diplomatique à la France. Et je voudrais lui rappeler qu'en 2004, il n'avait pas du tout commencé comme il l'a fait aujourd'hui. En 2004, il ne connaissait que l'existence de 4 papyrus, 2 qui avaient été déroulés au Louvre en 1879 et 2 qui avaient été déroulés à Naples un siècle plus tard. Pourtant, il indiquait dans sa note 5 de sa communication, Gigante, dans son ouvrage de 1986, il faut se référer à la bibliographie qui était donnée, page 28-35, parle pour sa part de 6 rouleaux donnés à Bonaparte, sans aucun commentaire. Cette note a dû éveiller l'imagination des amateurs de romans policiers. S'il y avait bien 6 rouleaux et non 4, où les 2 derniers rouleaux manquants étaient-ils passés? C'est finalement l'intuition féminine, jointe aux ressources de l'informatique, qui a permis de trouver la solution. Il me paraîtrait juste que l'auteur de l'indication qui a permis la redécouverte des 2 rouleaux manquants soit associé non pas en notes, mais dans la présentation même de la communication. C'est la seule remarque que je voudrais faire à propos de cette communication dont la démonstration est imparable, même s'il reste encore quelques questions sur la destination d'une partie d'un rouleau. Mais comme cette note d'information remet à l'honneur les papyrus d'Herculanum de l'Institut retrouvés désormais dans la totalité de ce qu'il en reste, je voudrais demander à Daniel Delattre qu'il nous dise en quelques mots où en est son équipe 9 ans plus tard du déchiffrement du traité de la calomnie de Philodème conservé dans le papyrus actuellement numéro 2 de l'Académie et où l'on avait déjà eu l'heureuse surprise en 2004 de lire le nom de Virgile.
Merci, monsieur. Je suis heureux de pouvoir dire à l'Académie aujourd'hui que très récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, en reprenant une fois de plus la partie finale du papyrus Herculanum de Paris numéro 2, à la recherche de la souscriptio, c'est-à-dire du titre final en caractère d'apparat, j'ai eu le grand plaisir de découvrir, outre des restes du fi initial qui avait été déjà repéré à Naples par mes collègues il y a longtemps, donc dans les années 86, j'ai eu le plaisir de lire la partie inférieure de l'iota qui suit, de lire clairement... Alors, je ne sais plus, j'ai un trou ici. Je ne sais plus si c'est un reste du lambda. Non, je crois que le lambda manque, mais il y a un reste de l'omicron et ensuite un reste de delta. Donc, le nom de Philodème peut être restitué d'une manière certaine dorénavant. Et le sujet ne fait aucun souci, ne fait pas problème, puisque dans la dernière colonne, Philodème récapitule le sujet qu'il a traité et il dit qu'il a parlé peri diabolon avec l'ambiguïté de savoir s'il s'agit des calomniateurs, diabolos, ou des différentes formes de calomnie, diabolais. Bon, comme on n'a pas d'accent, impossible de répondre à la question. Voilà, donc ça c'était quelque chose de nouveau. Il y a une certitude maintenant concernant le nom de l'auteur. Alors pour le reste, nous, comme je l'avais expliqué précédemment à l'Académie, nous partons de la fin du rouleau pour remonter tout doucement vers le début. Nous partons de la lettre Z, dernière colonne, pour remonter jusqu'à la lettre A, et ensuite ZZ pour remonter à AA, et ainsi de suite. Bon. Actuellement, nous sommes arrivés à peu près à la lettre A, étant entendu que les lettres L à Z sont reconstituées, disons, d'une manière déjà fort complète, pour autant qu'on puisse les compléter. Le travail, cette année, nous essayons de mettre ça au propre. Nous publions dans la mesure du possible des petits morceaux, petit à petit, dans diverses publications, à l'occasion des congrès internationaux de papyrologie. Celui de Michigan, il y a déjà un certain nombre d'années. Cette année, ce sera à Varsovie, où il y aura aussi une intervention, dans des colloques et des choses comme ça. Ce qui fait qu'on arrive maintenant à une publication à peu près de l'essentiel jusqu'à la lettre L. Et le travail est déjà avancé, mais devient très difficile à partir de la lettre K et en remontant. On a de très, très grosses difficultés à reconstituer ce puzzle. C'est un travail extrêmement délicat à cause de la superposition des couches. Tant que nous n'aurons pas la possibilité de lire à travers les couches, nous serons condamnés ou bien à décoller ces restes. Bon, ce n'est pas une chose impossible. On a la méthode d'Oslo à disposition. Mais dans la mesure du possible, pour l'instant, nous essayons de ne pas trop toucher et de faire avec...
Je vous remercie beaucoup pour cette information supplémentaire qui est importante et j'espère que nous aurons quand même l'occasion de vous entendre ici et pas seulement dans des congrès à l'extérieur pour que nous puissions discuter ensemble
Très volontiers.
De ce texte. Merci.
Merci beaucoup.
Je vous remercie. Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole ?
Oui,
votre secrétaire perpétuel.
Oui, l'ordre du jour annonçait que je copatronnais cette note d'information avec notre confrère Jacques Joinat. Évidemment, je n'ai pas de compétence pour le faire. C'est à l'évidence du grec, même s'il n'en reste pas beaucoup. Hein, mais enfin, il y avait au moins pi au micron nu, alpha kappa sigma, donc c'est pour Jacques Joinat, ça ne fait absolument aucun doute. Mais je me réjouis de l'occasion qui m'est ainsi donnée de renouveler les remerciements de l'Académie à notre associé Louis Godard, de rappeler l'expédition de mon prédécesseur à Naples pour récupérer ses papyrus, n'est-ce pas ? Il était lui-même, lui qui était si habitué aux honneurs de ce monde, impressionné par les motos de la police que l'État italien avait mis à sa disposition pour escorter les précieux objets, et pour me réjouir aussi que monsieur l'ambassadeur d'Italie soit justement présent aujourd'hui pour avoir ce témoignage de la coopération scientifique franco-italienne.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication de Daniel Delattre, intitulée « Enquête sur les papyrus d'Herculanum, Paris 5 et 6 », lors de la séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulée le 5 avril 2013. À bientôt sur Canal Académie.